Alléluia, merci Seigneur. On est réunis en ton nom, Seigneur. Là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais les besoins. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ce qui s'est passé dans le travail, les afflictions. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et nous tous, nous en remettons entre tes mains, sachant que tu aura une parole pour nous tous, toujours quelque chose, une consolation de bénédiction, quelque chose que tu as réservé pour nos cœurs. À toi l'honneur, la gloire, sachant que tu es le Dieu vivant qui ne change jamais et tu es présent en esprit. Et encore ce soir, tu vas parler à nos cœurs. Je te remercie, Seigneur. Bénis-nous tous, tels que nous sommes, tous les frères, toutes les sœurs. Aide-nous dans cet effort que nous faisons, dans cette chaleur. Que tu puisses alléger toute souffrance. Accorde-nous tes bénédictions que tu as préparées pour chacun d'entre nous. À toi l'adoration, le remerciement, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Donc la page 56 est en italien. On va continuer la lecture de la compilation. Les écrits de Frère Franck, on avait laissé un peu en suspens un paragraphe, donc on va reprendre cela. Donc, Frère Franck avait dit que Dieu a autorisé, a permis cette tragédie qui s'est passée là à Krefeld. Donc, il faut que. Mais toute chose compare au bien de ceux qui aiment Dieu, donc toute cette histoire de mariage, divorce, est une matière rafraîchie. Donc tout ce qui semble tordu ou difficile, le Seigneur, il sait pourquoi il permet ça. Donc tout va toujours, disons, pour notre bénédiction, c'est pour nous. Voilà. Naturellement. Donc je ne sais pas combien on est, des milliards. Sur la surface de la terre, mais vous voyez que Dieu s'occupe de tout le monde. Il s'occupe de tout le monde. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Alléluia. Donc voilà, on avait lu certains passages des Écritures et maintenant on va recontinuer décembre 2009, la lettre circulaire de décembre 2009. Le Seigneur reconstruit son Église sur les fondements originaux, comme dit Paul, sur les fondements des apôtres et des prophètes. L'ennemi n'aimerait rien de mieux que de détruire, que de la détruire complètement, l'Église. Mais il ne pourra pas prévaloir contre l'Église, comme on l'a dit l'autre fois. Ça, c'est la dernière église dans laquelle Satan se trouve directement devant la femme, c'est-à-dire l'église, qui va enfanter le fils mâle, c'est-à-dire la troupe des vainqueurs qui sera enlevée. Apocalypse 12. Et on a vu l'autre fois cette douleur de l'enfantement qu'il y a, afin qu'il y ait vraiment la parole prophétique que Dieu puisse accomplir. Mais dans l'attente, il y a cette douleur. Et le diable voudrait vraiment permettre. Enfin, il ne voudrait pas permettre que le fils mâle puisse venir à la lumière. C'est-à-dire que Satan voudrait gouverner la terre. Parce que c'est lui qui le gouverne, d'une certaine manière, toute la terre. Donc je relis la circulaire de décembre 2009. Donc, maintenant que le Seigneur est en train de bâtir de nouveau son Église sur le fondement original, comme Paul l'a dit, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'ennemi ne voudrait rien de mieux que de la détruire complètement. Donc, la nature gémit après la manifestation des fils de Dieu. Donc, il y a cette douleur. L'Apocalypse aussi, 12. La femme. Donc, le serpent ancien, blanc, qui se trouve devant la femme, pour l'empêcher. Pendant cet accouchement. Et aussi Ésaïe 54:1 et deux rois. Alors prenons deux rois 19. 2 rois. Deux rois 19, verset 3. Voilà pourquoi le Seigneur est fidèle, il reste fidèle, même si nous on est incrédule, il est toujours fidèle pour accomplir toute sa parole, c'est une certitude. C'est l'Esprit de Dieu lui donne, c'est sa parole même donne, parce que lui il accomplira toutes ses promesses, toute sa parole. Mais il y a toujours une douleur pendant cette attente. On dirait, bon, si on va lire, ceci, regardez. Deux rois 19, au verset 3, prophète, donc je ne vais pas, bon, vers Isaïe, fils d'Amos, et ils lui dirent : Ainsi dit Ézéchias, ce jour est un jour de détresse, et de châtiment, et d'opprobre. Donc il y a de l'opposition, il y a de l'oppression, il y a tout ça qu'il faut soutenir. Que l'épouse de Christ, l'élu, le fils et la fille de Dieu, doit soutenir. Mais regardez, et en ce moment, vous voyez le blasphème qu'il y a, vous savez, cette loi. Donc, il y a une loi, je ne sais pas comment on appelle cette loi-là. Donc il y a vraiment des difficultés vraiment fortes. Et ici, on voit ça. Donc, jour de détresse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont venus jusqu'à la naissance et il n'y a point de force pour enfanter. On dirait qu'il n'y a plus de force pour mettre au monde le fils mâle. Il y a vraiment beaucoup d'opposition. Et parfois, comment dire, on dirait qu'on cède. On ne cède pas, mais Dieu doit faire grâce à son Église et qu'il l'aide, surtout dans ces derniers temps. Qui lui donne la foi nécessaire pour vaincre la dernière bataille, pour pouvoir enfanter, mettre au monde le fils mâle. Cette parole du Dieu vivant, manifestée encore sur cette terre, cette bénédiction, cette dernière pluie, comme Dieu nous l'a promise, afin que chaque genou se plie devant cette autorité au milieu de l'Église, parce que c'est important ça. Voilà, c'est pour ça que je dis, on dirait que d'un côté il y a l'opposition, mais de l'autre côté il y a l'aide divine qui est là, et on doit vraiment fixer nos yeux sur le Seigneur, le Sauveur. Alléluia. Donc on dirait qu'il y a une difficulté, on dirait. Et lisons encore, le fils, l'Église qui va enfanter le fils mâle. Je continue la lecture du fils Franck. Donc ceci est la toute dernière époque quand Satan se tient directement devant la femme, l'Église qui enfantera le fils mâle. La troupe des vainqueurs qui sera enlevée vers Dieu, Apocalypse 12. Jésus est et sera toujours le victorieux, et tous les fils et les filles de Dieu vaincront l'accusateur des frères et expérimenteront la plus grande des promesses, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc comme il a dit, que s'il ne s'en allait pas, il n'aurait même pas pu donner cet esprit. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a préparé une place, et vous connaissez déjà tous ces versets. Donc, il a dit que quand sur cette place sera prête, alors là, on ira à la maison. C'est ce qu'on attend. Amen. C'est ce que vous tous, nous attendons. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3, et aussi Apocalypse 3, 20. Celui qui vaincra, s'assiera sur mon trône, comme moi je suis aussi assis avec mon Père sur mon trône. Sur son trône. Donc, ça parle de l'église de la Odyssée, de cette opposition. Comment est-ce qu'on dit ça? C'est un moment difficile qu'on est en train de traverser. Donc on dirait qu'il n'a plus de force, on dirait qu'on n'est ni chaud, ni froid. Donc c'est vraiment ce qu'on a lu dans 2 Rois, verset 3. On dirait qu'il n'y a plus de force, mais Dieu donne la force. Alléluia. Je continue la lecture ici. En considérant les 30 dernières années, j'ai l'image directe de mon Rédempteur devant les yeux. Il avait environ 30 ans, Luc 3, 23, lorsqu'il commença à exécuter son mandat selon le plan du salut. On lui a injustement mis l'étiquette d'être né d'une fornication. Ça, on le sait tous, qu'il a été accusé comme ça. On sait tous que les pharisiens, les sadducéens, lui ont dit, nous, on n'est pas nés de la fornication, on n'est pas nés de la fornication. Oui. Voilà, il faisait. Et donc il fait référence à ce que ces gens-là avaient dit de Jésus. Quelqu'un pourrait-il se demander s'il est vraiment nécessaire que Marie soit fiancée, favorisant ainsi la suspicion que quelque chose avait eu lieu? La chose la plus terrible était que certains pensaient qu'il était de Joseph. Mais Jésus, né dans la chair, était chair. Donc la chose la plus terrible est que certains pensaient qu'il était né, qu'il était de Joseph, et d'autres qu'il était né d'un légionnaire romain. Vous vous rendez compte? Combien de choses sont dites derrière le dos des gens? Lisons maintenant, pour confirmer tout cela. Donc je continue d'abord. Ce ne sont pas lâches. Donc le frère Franck écrit, c'est seulement les véritables croyants qui sûrent et qui savent qui il était et qui il est. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En effet, ce ne sont pas la chair et le sang qui te révèlent cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 16. Tout. Donc il y a une phrase en plus de la version italienne. Vous savez, il y a une doctrine unitarienne qui dit ils baptisent au nom de Jésus, mais ils disent que pendant que Jésus était sur la terre, le ciel était vide. Parce qu'il est écrit dans Colossiens que la plénitude habitait en Jésus. Donc, pour eux, ils disent que le ciel était vide. Vous voyez la fausse doctrine, les enseignements faux. Mais Dieu est esprit, il est partout. Aux cieux, sur la terre, il est partout. Vous voyez? Voilà pourquoi les deux. Donc, c'est Dieu aussi, lui-même, dans l'homme. Pas qu'il était dans l'homme et en même temps vide au ciel. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi il est écrit. C'est mon. Donc ce ne sont pas la chair et le sang qui te révèlent cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu. Alors, lisons Matthieu 13. Voilà pourquoi on ne prend pas cette fausse doctrine, malgré qu'il baptise au nom de Jésus-Christ. Les unitariens. Matthieu 13. Matthieu 13, 57. Donc on commence par 55. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques et Joseph et Joseph et Simon et Jude, et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes auprès de nous? Donc ce sont des paroles qui scandalisent. C'est difficile d'avaler ces paroles-là. Alors Jésus a ajouté, donc d'abord il est écrit qu'ils étaient scandalisés en lui, et Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans son pays et dans sa maison. Vous voyez, il n'y a pas juste une forte position en Christ, alors il n'y a pas l'attraction du Saint-Esprit, il n'y a pas l'attraction de la parole de vie, il la rejette au contraire. Donc déjà, ils ont des difficultés à croire au miracle. Donc c'est maintenant, c'est aussi une leçon pour nous tous, de rester dans la foi du Fils de l'homme. Amen. Donc je continue la lecture du frère Franck ici. Tout ce qui vient de Dieu est basé sur la révélation. Donc tout ce qui provient et vient de Dieu est fondé sur la révélation. Et je continue. Cependant, lorsque les scribes devinrent vexants et contraignants, ils dirent au Seigneur, « Nous ne sommes pas nés de la fornication. » Il leur répliqua, le rétorqua, vous êtes de votre père, le diable. Jean 8, 41 et 44. Il n'y a rien de plus bas que d'accuser un homme de Dieu d'être né ou de vivre dans l'adultère. Donc je répète, il n'y a rien de plus bas que d'accuser un homme de Dieu d'être né ou de vivre dans l'adultère. Seuls les scribes et les pharisiens, dont le père est le diable, font cela. David pouvait être accusé d'adultère, mais pas Abraham, Moïse ou moi. Frère Franck donc. Donc c'est le frère Franck qui dit ça naturellement, parce qu'on a un peu lu son histoire et on sait très bien, ou plus ou moins, comment ça s'est passé. Donc il a été accusé d'adultère. Moi aussi j'ai été accusé d'adultère, pas que le frère Franck, vous voyez. Mais moi aussi j'ai été accusé. Mais frère Forestieri, tu vas me dire, mais toi, oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce que dit l'Écriture. Donc automatiquement, en parlant d'une certaine manière, ils font croire qu'ils sont bas devant Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que David pouvait être accusé d'adultère, et c'est vrai, mais pas Abraham, Moïse ou moi. Alléluia. Ou qui que ce soit. Donc, ils n'ont pas de faute, mais il y a des gens qui leur mettent des étiquettes dessus. Et ça, c'est grave. C'est grave. Parce que ça blesse. Et c'est douloureux. Alors, je continue à lire. C'est blessant d'être calomnié dans le monde entier et de la manière la plus terrible et d'être présenté comme étant le séducteur qui a perdu son appel. Vous voyez comme c'est grave. Grave. Depuis quand Dieu se repent-il d'un appel? Donc on a lu dans le passé que Dieu ne s'est jamais repenti de ses dons et ses appels. que l'appel que lui fait. Non, il ne peut pas revenir, aller en arrière et dire, toi tu ne me plais plus comme David. On a vu l'exemple. C'est toujours celui qui a eu la révélation, le psaume, Dieu l'a appelé mon ami, etc., l'ami de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Tout ça, nous, on peut le voir aujourd'hui. Mais des hommes qui sont, comment je veux dire, sans connaissance, n'ayant pas de connaissance, mais ayant cette envie de se disputer, de mettre la zizanie, ils commettent ces choses-là, ils font ces choses. Proverbe 10, 18. Proverbe 10, 18. Proverbe 10, 18. Celui qui couvre la haine a de lèvres menteuses, et celui qui propage les calomnies est un sot. Vous voyez la calomnie? On l'a déjà dit ça, on a déjà parlé de cela. Calomnier, c'est grave, très grave. Surtout. Donc c'est grave, c'est toujours grave de toute façon. Mais surtout quand c'est un mensonge, c'est encore plus grave, c'est plus pesant. Parce que c'est pour détruire les croyants. Détruire les serviteurs de Dieu, l'œuvre de Dieu, etc., etc. Et aussi Proverbe 30. Il agit de cette manière que lui-même connaît. Donc, Proverbe 30, 10. N'accuse pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu n'emportes la peine. Vous voyez comme c'est grave, vous voyez l'importance de ne pas calomnier, mais de rester vraiment sobre et de laisser le Seigneur s'occuper de tout. Un Pierre. Pierre 3, 16. Ayant une bonne conscience, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous, comme des gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ soient confus. Confus. De Timothée. De Timothée 3. De Timothée 3. Trois. donc la corruption extrême ici, des derniers temps. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. Il faut vraiment les éviter. Donc, à nous, ça ne nous intéresse pas, ces choses-là. Ça devient difficile, ça devient vraiment dur d'accepter. Parce qu'après, si tu acceptes, tu deviens le complice de la personne. Il faut faire attention. Donc, il y a un frère qui parle ici. Parce que ça influence mal, ça influence d'une méchante manière le frère ou la sœur. Donc ça vient vraiment du prince des ténèbres. Alléluia. C'est important. Ça, c'est pas pour le croyant. Un vrai croyant, né de la parole, ne peut pas faire ces choses. Nous continuons la lecture. Donc c'est blessant d'être calomnié dans le monde entier de la manière la plus terrible et être présenté comme étant le séducteur qui a perdu son appel. Depuis quand Dieu se repent-il d'un appel? Cependant, je pense qu'il doit arriver maintenant aux serviteurs la même chose qui arriva à notre Seigneur autrefois. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Jean 7, 12. Donc, on peut être une odeur de vie, de bénédiction, de fraîcheur, et d'autres, odeur de mort. Ça, c'est écrit dans Jean. Jean 7, 12. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Jean 7, 11, à partir de 11. Jean 7, 11. Les Juifs donc le cherchaient en secret. Alors, lui, donc, le cherchait à la fête des Juifs, à la fête, et disait, les Juifs donc le cherchaient, la fête, il disait, où est cet homme? Il y avait une grande rumeur à son sujet parmi les foules. Les uns disaient, il est homme de bien. D'autres disaient, non, mais il séduit la foule. Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. Donc il y a toujours eu cela, toujours des craintes. Donc il y a toujours des gens qui viennent pousser des gens à faire des choses dans la chair. Alléluia. Donc ça, c'est important. Il faut faire attention. 2 Corinthiens, 2, 16. C'est ce qu'on a. Donc nous, on est une bonne odeur et pour Dieu. Que tu nous donnes l'entendement du cœur et nous donnes la sagesse. Nous donnes la sagesse. Donc c'est 2 Corinthiens 2, 14. Or, grâce à Dieu, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance entre Dieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés, et à l'égard de ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort pour la mort, et aux autres une odeur de vie pour la vie. Voilà la vraie position du croyant. Tu dois marcher par l'Esprit de Christ. Au contraire, on a renoncé à cacher les choses. Ne marchons pas avec astuce et ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous nous rendons approuvés à toute conscience d'homme devant Dieu pour la manifestation de la vérité sur des paroles précises et profondes. Qui donne la force. Amen. Parce que nous savons que nous devons rester dans la juste position, afin que, même si on parle mal de nous, qu'ils puissent voir que cette chose-là était vraiment contre lui. Comme avec Frère Franck, vous voyez, ce qui s'est passé à lui, ça s'est passé exactement comme maintenant, ce qu'on a vu maintenant. Mais là aussi, pas seulement le Seigneur. Donc, tout ça, ça doit arriver à tous les serviteurs, chaque fois que quelqu'un de position en Christ, même au frère Branham aussi. Voilà pourquoi je dis, il faut faire très attention. Donc, on avait lu cela, c'est passé aux Écritures, ici. On peut voir ça. On peut voir qui est le vrai séducteur. Il y en a qui disent qu'ils séduisaient la grande foule. Donc je continue à lire, je serai franc ici. D'autres disaient non, il égare la multitude, Jean 7, 12. Quand un serviteur est traité comme le maître fut traité, il doit se contenter de cela, même s'il appelait Belzébuth, et que ses ennemis soit les gens de sa propre maison, comme exactement ce qu'on a lu, Jean, Matthieu 10, 21, 42. Vous pouvez le lire vous-même. Tout ce que le Seigneur a dit doit s'accomplir, comme cela fut le cas avec le Rédempteur. C'est ainsi que les apôtres et les prophètes furent aussi les cibles de Satan. Cela ne peut être différent maintenant. Et cela veut dire que c'est un bon signe. Amen. Donc, quand vous êtes persécuté, ce qui est écrit, moi j'ai fait des corrections, c'est en italien. Parce qu'il y a un italien qui n'était pas très très correct. Donc, comme cela fait le cas avec le Rédempteur, c'est ainsi que les apôtres et les prophètes furent aussi les cibles de Satan. Cela ne peut être différent maintenant. Et cela veut dire que c'est un bon signe. Le Seigneur a dit la chose suivante à ceux qu'il a envoyés comme ses serviteurs. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça, c'est la faiblesse de l'homme qui veut toujours justifier. Mais laissons faire le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Parce que l'Église passera par ce chemin-là. Elle doit passer par ce chemin. Parce que si tout se passe bien, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Mais tu veux dire, comment, frère Franco, le Seigneur va nous donner tout. Est-ce que vous pensez les souffrances de Christ? Les souffrances pour la parole de Dieu, pour la position en Christ. C'est un prix à payer. Et ce prix, Dieu doit nous donner la grâce de l'avoir et de soutenir. Sinon, on va passer au-delà. Donc je continue à lire. Le Seigneur a dit la chose suivante à ceux qu'il a envoyés comme ses serviteurs. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Dans Jean 14, 20. Et aussi dans, je crois que c'est Jean 14, quand on parle du lavage des pieds. C'est aussi écrit comme ça. Plus ou moins. Donc l'apôtre Paul aussi l'a expérimenté. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. 2 Corinthiens 6, 4. Voilà, on peut lire 2 Corinthiens 6, 8. On peut lire à partir du verset 4. 2 Corinthiens 6, 4, à partir du 4. Mais que le service ne soit pas blâmé. Afin que le service ne soit pas blâmé, mais en toute chose, nous recommandons comme serviteurs de Dieu, par une grande patience, dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux. Regardez un peu. Bien sûr, on parle du serviteur de Dieu. Pensez un peu. Un croyant, une croyante, ne doit pas que souffrir. Il a passé des moments difficiles pour glorifier le Seigneur. Il faut faire de tout. Donc il faut vraiment mettre la paix plutôt que la guerre. C'est important. Donc il y a un travail derrière. Voilà pourquoi le vrai croyant doit passer à travers cette petite tranche. Voilà où est. Comme on l'a dit au début. Donc on avait parlé de l'Apocalypse qui était prête à accoucher. Vous avez compris ça. C'est important de comprendre ça. Alléluia. Afin qu'il y ait une formation, une discipline et la soumission à la parole de Dieu. Alors là, on sera vraiment béni. Et Dieu se glorifiera à travers nous. Dans 2 Corinthiens 11, Paul craignait que le serpent séduisît les croyants comme il le fit avec Ève. Même jusqu'aujourd'hui, certaines personnes écouteront les paroles d'une femme qui a été séduite par l'ennemi et dont la bouche ne profère que des versions déformées de chaque écriture et de chaque citation qu'elle prononce. 1 Timothée 2, 11 à 14. Donc, des versions déformées de chaque écriture et de chaque citation qu'elle prononce. 1 Timothée 2, 11 à 14. Je dois couper.